Chapitre 31. Il y eut aux noces de Cana en Galilée, les évangélistes ont, je crois, omis ce détail, un petit juif, un horrible crapaud d'aillon de la tribu d'Issacar, qui voyageait pour un notable vigneron de Sarepta, et qui fut présent lorsque le maître d'hôtel dégusta le vin du miracle. Ce jeune homme, plein de génie et probablement espion, aperçut d'un coup d'œil unique l'énorme danger pour le commerce des vins en gros de pareilles manifestations de la puissance divine. En conséquence, après un rapide mais attentif examen du cas, pressé aussi, je m'en doute, par quelque impulsion diabolique, il obtint du maître d'hôtel, ravi de l'affaire, qu'il lui céda contre 20 ou 30 effas du meilleur cru de Saron, tout ce qui pourrait rester du sang du Christ au fond des cruches miraculeuses. Tu as bien compris, Marche Noire, du sang du Christ. Or, ce bon vin ayant été réservé pour la fin du banquet nuptial, lorsque les convives étaient déjà suffisamment imbibés de l'ordinaire, comme l'atteste positivement un historien vérifié dans l'huile bouillante, 60 ans plus tard, par l'empereur Domitien. Il y a lieu de croire qu'il dut en rester une quantité raisonnable qui fut expédiée le soir même à Jérusalem, avec un rapport très circonstancié, pour qu'on l'analysât dans le laboratoire du Sanhédrin. Nul n'a le droit d'ignorer que les princes des prêtres et les docteurs de la loi qui formaient le Grand Conseil étaient des scélérats d'une science talmudique à faire peur, connaissant sur le bout des doigts toutes les traditions messianiques et tous les signes où se devait reconnaître l'avènement du Fils de Dieu. Quand ils demandèrent sa mort, ils savaient donc très bien ce qu'ils faisaient, préférant la plus ample damnation lointaine à l'inconvénient prochain d'humilier devant lui leur barbe pharisaïque et pédiculaire. Faute de documents certains, il serait difficile, je ne dis pas de savoir, mais seulement d'imaginer les sacrilèges abominations ou les amalgames 20 fois indicibles qui se perpétrèrent en la conjecture au sein du collège pandémoniaque. Mais voici ce qu'une vie déjà longue, et d'ailleurs jusqu'à ce jour entièrement consacrée à l'iniquité, m'a permis d'entrevoir. Ce vin, identique, d'après une infiniment plausible exégèse, à celui qui devait être recueilli dans la coupe mystérieuse du Saint Graal, fut conservé par les rabbins et transmis de siècle en siècle à tous les Cohen ou les Sagans fétides qui le gardaient soucieusement au fond de leur juiverie comme un électuaire infaillible et inépuisable pour faire entrer le démon dans le corps des hommes qui en boiraient une seule goutte mélangée à n'importe quel breuvage. Il est vraisemblable qu'on en offrit à Judas un vaste cratère et que la populace enragée, qui hurlait à la mort du Christ le vendredi saint, écuma pour avoir bu le terrible vin sophistiqué des figuratives épousailles. J'ose donc présumer que ce poison de la plus ténébreuse officine des enfers est toujours invariablement versé chaque fois qu'il est expédient d'ameuter des hommes contre Dieu ou, si on le préfère, contre un homme dont la scandaleuse présence rend manifeste une fois de plus la hideur plus qu'effroyable d'un monde qui a cessé de ressembler à son Créateur. J'ai dit. Il s'arrêta net, immobile autant qu'un vaisseau pris dans les glaces du pôle antarctique, les mains étendues nerveusement à 2 centimètres au-dessus de la ficelle de son pauvre pantalon, fatigué par les automnes, la bouche close désormais, comme s'il se fût agi de retenir un irrévélable secret, et la flamme bleue de ses yeux pâles dardée magnétiquement sur son interlocuteur. Chapitre 32. Quelque habitué que fût l'auditoire aux incartades imaginatives du poète, celle-ci parut forte, et il y eut un silence. Tous, même Follentin, regardèrent curieusement Marche Noire, demeurait très impassible, se demandant ce qu'allait dire ce redoutable. Clotilde, surtout, qui l'avait tant étonné le premier jour, et qui, d'ailleurs, avait peu compris la similitude, jaillissait d'elle-même, ayant l'air de croire que quelque chose de grand allait se passer. « Marche Noire, » dit Léopold, « vous êtes le seul homme capable de répondre à ce que nous venons d'entendre. » Celui qu'on nommait l'inquisiteur alluma une cigarette et, s'adressant à l'Île-de-France, « Quand la musique n'est pas bénie par l'Église, » prononça-t-il avec un grand calme, « elle est comme l'eau, très mauvaise et habitée par les démons. » Si je m'adressais à des intelligences dégagées de toute matière et par conséquent semblables à celles des anges, ce mot suffirait pour en finir avec Wagner. Malheureusement, il faut quelque chose de plus. D'abord, je n'ai que faire de ton poison juif, mon cher Bohémond. Personne ne m'a jamais aperçu dans aucune meute ni aucune émeute. Je suis un méprisant et un solitaire, tu le sais très bien. J'ignore et veux ignorer ce qui a pu être gazouillé, coassé ou vociféré contre ce teuton qui recommence aujourd'hui avec ses partitions orgueilleuses la conquête rêvée en 1870 par le vieux Guillaume avec 1 million de soldats. C'est assez pour moi de savoir qu'il a inventé une religion. Prosterne-toi tant que tu voudras au seuil du Vénusberg ou de la Valhalla. Traîne-toi sur les marches du Graal, qui est leur prolongement lyrique dans ce crépuscule des dieux. Omnes diigensium demonia. Arrange tout ça avec les leçons de ton catéchisme, dont tu me parais n'avoir gardé qu'un souvenir trouble. Mes genoux ne te suivront pas. Ils appartiennent à la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, exclusivement. Tout ce qui est en dehors d'elle vient du mal, émane de l'enfer, nécessairement, absolument, sans autre examen ni compromis oiseux, car ce qui trouble, c'est cet ennemi de la paix divine. C'est toi-même qui as écrit cela, dans un de tes jours lucides, l'aurais-tu oublié déjà? Fût-on l'artiste le plus grand du monde, il n'est pas permis de toucher aux formes saintes, et ce qui bouillonne dans le calice du Mont Salva. J'en ai bien peur, ne serait-ce pas précisément l'élixir épouvantable dont tu nous as fait le poème? Beethoven n'entreprit jamais de mettre à genoux les peuples et les rois, et n'eut pas besoin d'autre force que celle de son génie. Wagner, impatient de tout dompter, a prétendu faire de la liturgie elle-même l'accessoire des combinaisons de ce prétendu chef-d'œuvre. C'est la différence du légitime au bâtard. Pourquoi voudrais-tu que je me traînasse pieusement derrière ce brouillard sonore qui ne devrait paraître une colonne de nuées lumineuses qu'aux imaginatifs grossiers de la Germanie? Ces paroles, vivement approuvées par Gacugnol, parurent exaspérer Bohémond. On le crut même sur le point de se livrer à quelque violence de langage. Par bonheur, il se souvint d'antérieures altercations du même genre où il avait senti l'adversaire aussi infranchissable que la plus haute cime de l'Himalaya, et il put se borner à lui dire avec une sorte de bonhomie orageuse « Tu es peut-être en effet le seul, comme l'a très judicieusement observé Léopold, qui jouisse d'une plénière et papale dispense d'admirer Wagner. Es-tu bien sûr pourtant que l'Église, notre Sainte Église romaine, soit nécessairement aussi rigoureuse? L'Île-de-France est une banalité sentimentale. L'Église ici n'a besoin d'aucune rigueur. Le néant de ceux qui l'outragent est surabondamment notifiée par sa silencieuse et indéfectible présence. Elle est comme Dieu est, simplement, uniquement, substantiellement, et les nouveautés lui sont hostiles. Or, c'en est une effroyable que de prostituer sa liturgie. et n'existe pas de profanation plus grave, et celui qui l'ose vient se placer de son propre mouvement sous l'anathème. Un dernier mot. J'ai lu que Wagner aimait à plonger ses auditeurs dans les ténèbres. Il paraît que son œuvre gagne à être entendue par des gens qui ne se voient pas les uns les autres et qui ne pourraient faire trois pas sans tomber. Ne te semble-t-il pas qu'il y a quelque chose d'un peu troublant dans cette circonstance de congédier la lumière au moment même où on va servir un ragoût du ciel? Glose, puérile et sophisme odieux, rugit le convulsionnaire. Pourquoi ne pas dire tout de suite, comme l'ont insinué d'impurs cafards de Genève ou de Saint-Sulpice, que l'obscurité dont tu parles fut calculée pour mettre à l'aise les frôleurs et les tripoteurs que détraque le violoncelle? Hé, hé, fit Marche Noir. Oui, sans doute, cette idée ne te déplaît pas. Eh bien, je dis que c'est une honte de chicaner un grand homme ses moyens d'action. En cette matière, il est et doit être seul juge, et les commérages ou les clamitations marécageuses d'une provisoire humanité ne valent pas les quelques secondes qu'on perdrait à s'en ébahir. Pour ce qui est de la liturgie... Laissons cela, Bohémond, reprit Marche Noir, le coupant raide. Aussi bien ne pourrions-nous jamais nous entendre. Tu me dirais des injures, dont ta noblesse te forcerait bientôt à me demander pardon, et nous en serions l'un et l'autre très malheureux. À quoi bon tant de mots? Nos voix sont diverses. Tu savais d'avance qu'il est impossible de faire de moi un sectaire, et j'ai renoncé depuis longtemps à te faire comprendre quoi que ce soit. Ton génie a dévasté ta raison. C'est un chérubin au glaive de feu qui empêche ton intelligence de réintégrer le paradis. Et tu es obstrué, de surcroît, par l'épaisse formule hégélienne. Et d'ailleurs, pourquoi Wagner? Pourquoi tel ou tel artiste, lorsque l'art lui-même est en litige? Le Belluaire s'était levé comme pour congédier l'importune visitation des pensées frivoles. Bohémond, resté sur sa chaise et le poing fermé sous son menton, dans l'attitude lithographique du maire de Strasbourg, écoutant Rouget de Lille beugler la Marseillaise, l'envisageait de bas en haut, de la même façon qu'un tigre, à moitié vaincu mais plein de courage, envisagerait un mammouth ressuscité du déluge. L'art moderne est un domestique révolté qui a usurpé la place de ses maîtres, catéchisa le promulgateur d'absolu. J'ai quelquefois dénoncé, avec une amertume qui paraissait excessive, l'étonnante imbécilité de nos chrétiens et la haine vile dont ils rémunèrent le beau infailliblement. Vous m'accorderez, messieurs, qu'il est impossible d'en dire trop sur cet article. Depuis 3 ou 4 siècles, les catholiques et les dissidents de n'importe quelle étable ont tout fait pour dégrader l'imagination humaine. En ce seul point, hérétiques et orthodoxes ont été continuellement unanimes. La consigne donnée aux uns et aux autres par le Tout-Puissant d'en bas était d'effacer le souvenir de la chute. Alors, sous prétexte de restituer l'homme, on fit renaître la viande antique avec toutes ses conséquences. Les cathédrales croulèrent, les nudités saintes firent place à la venaison et tous les rythmes appartinrent à la luxure. Les lignes rigides que la droiture du Moyen-Âge avait attribuées aux représentations extracorporelles des martyrs, aussitôt brisées, s'incurvèrent, suivant la loi indisponible des mondes qu'un enfantillage sublime avait un instant dompté, et devinrent les rinceaux de l'autel de Pan. C'est là, je pense, que nous en sommes tout à fait. Que serait-il arrivé au christianisme si les images même les plus sacrées étaient autre chose que des accidents de sa substance? Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas confié sa barque à des magnifiques. Le monde a été conquis par des gens qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Et il y eut des peuples gouvernés avec sagesse par des clairvoyants qui n'avaient jamais rien vu de ce qui grouille sur la terre. Pour ne parler que de la musique, la mélodie la plus somptueuse est au-dessous du silence. Lorsqu'intervient le custodiat animam meam de la communion du prêtre, l'essentiel, c'est de marcher sur les eaux et de ressusciter les morts. Le reste, qui est trop difficile, est pour amuser les enfants et les endormir dans le crépuscule. Toutefois, l'Église, qui connaît parfaitement l'homme, a permis et voulu les images dans tous les temps, à ce point qu'elle a mis sur ses autels ceux qui donnèrent leur vie pour cette ossature traditionnelle de son culte, mais sous la réserve absolue d'une vénération surnaturelle strictement réfrénée aux originaux invisibles que ces images représentent. Ainsi prononce le Concile de Trente. Certes, le mépris ou l'horreur des chrétiens modernes pour toutes les manifestations d'un art supérieur est intolérable et paraît même une autre sorte d'iconoclastie plus démoniaque. Au lieu de crever des toiles et de briser des statues peintes comme cela se pratiquait sous les Isauriens, on étouffe des âmes de lumière dans la boue sentimentale d'une piété bête qui est la plus monstrueuse défiguration de l'innocence. « Tiens !» pousse un druide, se tournant vers Follentin. « N'est-ce pas, en propre terme, ce que vous me prophétisiez il y a quelques jours? Attendez-vous à finir dans l'égout ? Il s'agissait de ma pauvre peinture dont vous essayâtes charitablement de me décourager. Je demande pardon pour cette interruption, mais je n'ai pu la retenir tant les derniers mots qui viennent d'être proférés ont ravivé dans mon cœur le sentiment d'une gratitude qui ne prendra fin qu'avec moi-même. Et dans le même lieu, selon toute probabilité. » Follentin se contenta de sourire aussi équivoquement qu'il put, et Marchenoir continua. « L'art, cependant, je le répète, est étranger à l'essence de l'Église, inutile à sa vie propre, et ceux qui le pratiquent n'ont pas même le droit d'exister s'ils ne sont pas ses très humbles serviteurs. Elle leur doit sa protection la plus maternelle, puisqu'elle voit en eux ses plus douloureux et ses plus fragiles enfants. Mais s'ils deviennent grands et beaux, tout ce qu'elle peut faire, c'est de les montrer de loin à la multitude comme des animaux féroces dont il est dangereux de s'approcher. Aujourd'hui, cette même Église dont je suis bien forcé de parler sans cesse, puisqu'elle est l'unique mamelle, a été lâchée par tous les peuples, sans exception. Ceux qui ne l'ont pas expressément, officiellement reniée, la jugent très âgée et se préparent, en fils pieux, à l'ensevelir de leurs propres mains. Pourvus d'un conseil de famille et d'une armée de gardes malades, à peu près dans tous les pays qui se croient encore d'obédience papale, quel pourrait être son prestige sur la vagabonde populace des rêveurs? Il peut se rencontrer quelques rares et aristocratiques individus qui soient en même temps des artistes et des chrétiens, ce que ne fut certes pas Wagner, mais il ne saurait y avoir un art chrétien. Certains d'entre vous, peut-être, se rappellent que cette affirmation me fut reprochée avec amertume par les mêmes penseurs, j'ose le croire, qui reprochent le bourreau à Joseph de Maistre. S'il existait un art chrétien, on pourrait dire qu'il y a une porte ouverte sur l'Éden perdue et que, par conséquent, le péché originel et le christianisme tout entier ne sont que des radotages. Mais cet art n'existant pas plus que l'irradiation divine sur notre planète, éclairée à peine depuis 6000 ans par le dernier tison d'un soleil que les désobéissants éteignirent, il était inévitable que les artistes ou les poètes, impatients de rallumer ce flambeau, s'éloignassent d'une vieille mère qui n'avait à leur proposer que les catacombes de la pénitence. Or, quand l'art est autrement qu'à genoux. Non, comme le prétend mon cher ami Bohémond, dans la poussière du Graal, voisin, m'a-t-on dit, d'un ancien théâtre bâti par Voltaire, mais au pied d'un très humble prêtre. Il faut nécessairement qu'il soit sur le dos ou sur le ventre. et c'est ce qu'on nomme l'art passionnel, le seul qui puisse maintenant donner un semblant de palpitation à des cœurs humains pendus à l'étal de la triperie du démon. Chapitre 33. La vigueur de cette harangue parut avoir dégoûté Bohémond de toute entreprise nouvelle sur un adversaire intraitable, dont il admirait d'ailleurs l'intransigeance et la catapultuosité, dénominatif monstrueux qu'il avait puisé dans le gueuloir de Flaubert, autrefois beaucoup trop connu. « Pauvre Bohémond, marmotta cette bonne rosse d'Apépantus, depuis qu'en un soir d'ivresse il a vendu son reflet à Catul Mendes pour quelques centimes, comme dans le conte allemand, il est devenu incapable de se retrouver lui-même, fût-ce à tâtons. » Les autres, que Marchenoir avait traînés par des chemins où ils n'avaient pas coutume d'aller, se récupérèrent et s'orientèrent comme ils purent. Gacugnol, très satisfait d'une si belle défense des idées qu'il croyait avoir, félicita bruyamment le grandiloque et fit circuler des boissons. Clotilde, cependant, restait sur son appétit d'émotions intellectuelles. Il lui semblait que tout n'était pas fini. Quelque chose qu'elle n'aurait pu dire manquait à cette primitive, à cette neuve qui voulait son héros tout à fait sublime, et d'instinct, elle attendait un ray de foudre. Aussi, les pulsations de son âme se multiplièrent lorsque Druide, visiblement égaré depuis que Marchenoir avait arraché la langue à Bohémond, l'interpella en ces termes qui ne permettaient aucune évasion. « De tout ce que vous nous avez dit, Marchenoir, je ne peux et je ne veux retenir qu'un mot qui me précipite, je suis forcé de l'avouer, dans un gouffre de stupéfaction. Suis-je un artiste ? Avez-vous crié tout à l'heure, de l'air d'un corsaire qu'on menacerait d'enchaîner au banc d'une chiourne. Notre ami vous en a exprimé son étonnement qui n'a pas dû être médiocre. Voulez-vous me permettre une question ? Si vous n'êtes pas artiste, qu'êtes-vous donc ? Je suis pèlerin du Saint-Tombeau, répondit Marchenoir de sa belle voix grave et claire, qui fait ordinairement osciller les crêtes et les caroncules. Je suis cela et rien de plus. La vie n'a pas d'autre objet, et la folie des croisades est ce qui a le plus honoré la raison humaine. Antérieurement au crétinisme scientifique, les enfants savaient que le sépulcre du Sauveur est le centre de l'univers, le pivot et le cœur des mondes. La terre peut tourner autant qu'on voudra autour du soleil. J'y consens, mais à condition que cet astre, qui n'est pas informé de nos lois astronomiques, poursuive tranquillement sa révolution autour de ce point imperceptible et que les milliards de systèmes qui forment la roue de la Voie lactée continuent le mouvement. Les cieux inimaginables n'ont pas d'autre emploi que de marquer la place d'une vieille pierre où Jésus a dormi 3 jours. Né pour ma désolation indicible dans un fantôme de siècle, où cette notion rudimentaire est totalement oubliée, pouvais-je mieux faire que de ramasser le bâton des vieux voyageurs qui crurent à l'accomplissement infaillible de la parole de Dieu ? Il me suffit de croire avec eux que le lieu saint doit redevenir, au temps marqué, le siège épiscopal et royal de cette parole qui jugera toutes les paroles. Ainsi sera résolue l'anxiété fameuse que les politiciens nomment si sottement la question d'Orient. Alors, que voulez-vous que je vous dise ? Si l'art est dans mon bagage, tant pis pour moi. Il ne me reste que l'expédient de mettre au service de la vérité ce qui m'a été donné par le mensonge. Ressource précaire et dangereuse, car le propre de l'art, c'est de façonner des dieux. Nous devrions être horriblement tristes, ajouta l'étrange prophète, comme se parlant à lui-même, Voici que le jour descend et que vient la nuit où personne ne travaille plus. Nous sommes très vieux et ceux qui nous suivent sont plus vieux encore. Notre décrépitude est si profonde que nous ne savons même pas que nous sommes des idolâtres. Quand Jésus viendra, ceux d'entre nous qui veilleront encore à la clarté d'une petite lampe n'auront plus la force de se tourner vers sa face, tellement ils seront attentifs à interroger les signes qui ne peuvent pas donner la vie. Il faudra que la lumière les frappe dans le dos et qu'ils soient jugés par derrière. Chapitre 34. Clotilde revint chez elle à 3 heures du matin, escortée de ses amis Gacougnol, Marche Noire et Léopold, qui avaient tenu à la reconduire jusqu'à sa porte, dans ce quartier de marchands de salaison du Pacifique et de souteneurs de la Pinte à Paul, l'un des plus redoutables du Paris actuel. Enivrée de cette soirée singulière, intolérable sans doute pour toute autre femme, où s'était affirmée d'une manière si décisive la prééminence de l'homme sur les animaux privés de grammaire, habituée d'ailleurs à ne donner aucune attention à ce qui se passait chez la séchoire, elle ne songea pas à s'étonner de voir qu'on veillait encore et ne voulut même pas remarquer, en traversant le vestibule pour gagner sa chambre, le chuchotement soudain de plusieurs voix dans le grand salon. Elle ne devait s'en souvenir que plus tard. Mais elle eut un vague frisson et, à peine rentrée, tira son verrou. Vaillante comme elle l'était, cependant, elle ne tarda pas à se remettre complètement et à se moquer d'elle-même. Courte prière, déshabillage rapide et sommeil. Voici maintenant les fantômes qui passent devant les yeux ouverts de son âme. Vêtue avec magnificence et beaucoup plus belle que les reines, elle se voit assise dans un lieu très bas. Elle a froid et elle a peur. Mais pour le salut du monde, il ne lui serait pas possible de remuer le bout d'un doigt. Le silence est énorme et l'obscurité à quelques pas est si compacte, si coagulée, si poisseuse que le soleil s'y éteindrait. Les pensées ou les sentiments qu'elle faisait marcher devant elle quand elle était vive et forte sont engloutis dans ces ténèbres. Son puissant désir de vivre a disparu. Il lui semble que son cœur est vide, que Dieu est infiniment loin et que son corps inerte est une petite colline triste au fond d'un immense abîme. Sans doute que tout est détruit sur la terre. Pourtant, elle n'a pas vu la croix de feu qui doit apparaître quand Jésus viendra dans sa gloire pour juger vivants et morts. Elle n'a rien vu et rien entendu. Ai-je donc été jugée pendant mon sommeil ? Songe-t-elle. Le silence à la fin s'émeut et se plisse comme une eau de plomb où s'éveilleraient des bêtes inconnues. Elle entend un bruit. Oh, mais si faible, si lointain, qu'on dirait d'un de ces pauvres trépassés qui n'ont presque pas la permission d'appeler à leur secours et que les vivants cruels n'écoutent jamais. Le cœur de la pitoyable fille bat à gros coups contre les murailles de son sein, cloche sourde et muette, dont le branle désespéré ne troublerait pas un atome. Le bruit extérieur augmente. Un moment, on cogne, on vocifère. Puis, le silence retombe. Or, il n'y a plus de ténèbres. Elles ont pris la fuite comme un troupeau noir qu'une panique aurait dispersé. Clotilde voit une étendue morte et pâle, une terre déserte, sans voix et sans eau, selon les paroles du prophète, et le bon Gacougnol lui apparaît. Il est mort. Il a un couteau planté dans le cœur, et sa poitrine est inondée de sang. Il ne marche pas. Il glisse ainsi qu'une masse légère poussée par le vent. Il passe tout près d'elle, la regarde de ses yeux éteints, avec une compassion douloureuse, et lui dit Vous êtes nue, ma pauvre fille. Prenez mon manteau. » Elle découvre alors qu'elle est entièrement nue. Mais le spectre, déjà, n'a plus de manteau à lui donner, plus de visage, plus de main, et le geste qu'il voulut faire a suffi pour le dissiper. Marche Noire surgit à son tour. Celui-là, du moins, paraît vivre. Mais on ne distingue pas sa figure, tant il marche courbé. Et quel fardeau, Dieu de miséricorde! Quel fardeau épouvantable sur ses épaules! Ensuite, c'est fini. Personne ne passera plus. Une impénétrable forêt a jailli du sol. Une de ces forêts du tropique où la foudre allume des incendies. En voilà un, précisément, qui éclate. Effrayant et magnifique spectacle. Ô Jésus en agonie! N'est-ce pas Léopold qu'elle aperçoit au centre de la fournaise, avec sa haute et dédaigneuse face ravagée par d'inconcevables tourments? Il aurait été surpris, le malheureux. Le voilà qui lutte contre ces cascades de feu, comme il lutterait contre une armée d'hippopotames en colère. Mais sa chevelure s'est enflammée. Il se croise les bras et brûle impassible comme un flambeau. La dormeuse a pu, enfin, jeter un grand cri. Réveillée instantanément, elle s'élance hors de son lit, arrache d'une main ferme ses rideaux en feu, les foule sous un tapis et ouvre la fenêtre pour chasser l'odeur suffocante. Il fallait vraiment qu'elle fût bien troublée ou bien assommée pour avoir oublié de souffler sa bougie avant de s'endormir. Elle met ses deux mains sur son cœur pour en comprimer les palpitations. « Tu n'as pas assez prié Dieu ce soir, Desdémone, » dit-elle, se rappelant les lectures de l'atelier. Quel horrible cauchemar! Elle se souvient, une fois de plus, de la prédiction mystérieuse du missionnaire. « Quand vous serez dans les flammes... » Bien souvent, le jour, elle y pensait. Faudra-t-il maintenant qu'elle y pense le long des nuits? Mais pourquoi ce Léopold qu'elle a vu à peine quelquefois et qui est pour elle un inconnu, pourquoi lui est-il montré d'une manière si tragique et qui correspond si exactement à sa plus secrète préoccupation? Le sommeil, qui charge de chaînes le corps humain, a le pouvoir de restituer à l'âme pour la durée d'un éclair la simplicité de vision qui est le privilège de l'innocence. C'est pour cela que les impressions d'horreur et de joie reçues dans les songes ont une énergie dont la conscience est humiliée quand la mécanique de luxure a ressaisi son empire. La physionomie de pirate ou de condottière de Léopold avait paru à Clotilde si surnaturelle dans le décor de son rêve qu'elle crut que ce personnage énigmatique lui était révélé. Elle vit en lui un de ces héros en désuétude, criblés d'ombre et de dédain par un monde ignoble, qui ne peuvent se manifester que dans quelques soudaines et inimaginables conflagrations. Et cela devint aussitôt pour elle un autre rêve si profond que tout s'y noya. L'image, terrible pourtant, de son bienfaiteur poignardé, celle de Marche Noire, écrasée sous le poids d'une vie aussi lourde que les contreforts du ciel, disparurent. Faiblement, elle s'étonna de son versatile cœur qu'elle ne pouvait retenir, qui s'en allait spontanément vers un étranger. « Allons, je suis une sotte !» s'écria-t-elle, refermant la fenêtre d'où venait un air glacial, une sotte rêveuse et une ingrate. Elle s'agenouilla devant son lit pour une prière et se rendormit dans cette posture en sanglotant. Chapitre 35. « Vous avez le sommeil dur, mademoiselle, » lui dit son hôtesse à l'heure du déjeuner. « Voici une lettre que le porteur m'avait prié de remettre sans retard. Vous ayant entendu rentrer à 3 heures, J'ai cru bien faire de frapper chez vous. Mais vous dormiez déjà si profondément que je n'ai pu vous réveiller. Quand je verrai monsieur Gacougnol, je le gronderai de vous garder si longtemps. Le cher homme n'est pas raisonnable, il devrait vous ménager. » Clotilde, qui venait de prendre la lettre et qui avait reconnu l'écriture de sa mère, demeura immobile, saisie de ces derniers mots qu'on aurait pu croire portés sur les ailes d'un doux zéphyr et dont l'intention n'était pas douteuse. Elle vit en plein la malice infernale de la drôlesse qui l'insultait et devina l'extrême satisfaction des pensionnaires, voluptueusement chatouillés de cette insolence en leur plus intime recoin. Une seconde, elle fut sur le point d'éclater, mais elle se rappela en même temps sa résolution, prise dès le premier jour, de mettre un dragon à chacune des trois portes par lesquelles ses tourmenteuses auraient pu pénétrer dans son âme. Depuis plusieurs mois qu'elle mangeait à la pension, elle ne disait rien, ne voyait rien, n'entendait rien. Elle s'était enfermée dans sa volonté comme dans une tour. Pourquoi donc, alors, n'aurait-elle pas enduré les conjectures ou les soupçons outrageants aussi longtemps que la haine basse dont elle se sentait enveloppée ne serait pas incompatible avec sa paix intérieure? Elle avait d'ailleurs pour elle-même aussi peu d'estime qu'une femme en peut avoir et trouverait infiniment naturel de ne pas en espérer. Aux fréquentes questions que lui faisait Gacougnol, elle avait invariablement répondu avec assurance que rien ne manquait à son bien-être, et vraiment, elle pensait ainsi. Cette fois, pourtant, l'injure était si flagrante qu'il lui parut difficile de la dévorer, et un peu d'héroïsme lui fut nécessaire pour se borner à répondre que Gacougnol lui avait fait l'honneur de l'admettre à une soirée d'artistes où figuraient de non moindres personnages que Follentin et Bohémond de l'Île-de-France. Vengeance infaillible, l'institutrice déplumée, folle de gloire et qui ne pouvait attirer chez elle que des reporters ou des poètes de concours, aurait accompli des actes de vertu pour obtenir une telle faveur. Clotilde ne se résolut à ouvrir sa lettre que lorsqu'elle se fut retirée dans sa chambre. Elle n'espérait aucune consolation de cette lecture, et la nuit affreuse qui avait laissé son ombre sur elle ne la disposait pas au pressentiment joyeux. La femelle de Chapuis l'avait laissée jusqu'à ce jour, il est vrai, tout à fait tranquille, n'ayant même pas cherché à lui soutirer de l'argent, ce qui pouvait passer pour un miracle. Sans la crainte de rencontrer l'horrible voyou, Clotilde aurait déjà tenté de la revoir, car la paix charmante où s'engourdissait le souvenir des tribulations d'autrefois l'inclinait à une sorte de pitié pour sa misérable mère. Mais en ce moment, elle ne sentait que de l'inquiétude et de l'effroi. Voici ce qu'écrivait la compagne d'Isidore. « Ma chère enfant, ta tendre mère qui t'a portée dans ses flancs et qui a tant souffert pour te mettre au monde, est sur le point d'achever son pèlerinage terrestre. Ma Clo-Clo bien-aimée, je voudrais te bénir une dernière fois avant de retourner dans ma céleste patrie. La bénédiction d'une mère porte bonheur. Je ne veux pas te faire de reproches au moment où je vais revêtir la robe blanche pour paraître devant mon fiancé. Je sais que tout n'est pas rose dans la vie et je ne peux pas te blâmer d'avoir su te faire une position. Mais tu n'as pas été gentille pour tes vieux parents qui t'adorent. Quand ton monsieur Gacougnol m'a jeté à la porte, j'ai eu les sangs tournés, et c'est ce qui est cause de ma mort. Zizi te ferait pitié. Le pauvre agneau est comme une âme en peine depuis ton départ. J'irai l'attendre dans le ciel, où il ne tardera pas à me suivre, le chérubin. Cependant, nous te pardonnons de bien bon cœur. Viens dans nos bras, viens fermer les yeux de la sainte créature qui a tout sacrifié pour toi. Accours, mon enfant, mais n'oublie pas d'apporter un peu d'argent pour m'ensevelir, car nous n'avons plus rien. Ta pauvre mère, qui aura bientôt cessé de souffrir. Rosalie. C'est un mensonge, dit Clotilde en posant la lettre qui était, d'ailleurs, puante et sordide, quoique burinée d'une main très ferme et même orthographiée avec luxe. Toute une enfance de larmes et toute une jeunesse d'enfer étaient dans ce mot. Elle décida néanmoins d'aller à Grenelle. Mais elle ne pouvait se dispenser d'en avertir Gacognol et courut d'abord à l'atelier. « Bon Dieu, ma chère petite !» cria le peintre en l'apercevant. « Comme vous voilà déterrée ! Seriez-vous malade ?» Elle lui raconta sa mauvaise nuit et l'incendie de ses rideaux, sans parler toutefois du cauchemar. Puis, spontanément, lui donna à lire la lettre de sa mère. « Mais, ma pauvre Clotilde, on vous tend un piège. Votre mère n'est pas plus mourante que moi, la digne femme. On suppose avec noblesse que je vous comble de trésors, et on meurt surtout du désir de les extraire de votre porte-monnaie. Je comprends très bien, cependant, que vous teniez à éclaircir ce point. Écoutez, je m'intéresse infiniment plus à votre situation qu'aux sottes besognes que je fais ici. Vous ne savez pas ? Nous allons partir ensemble. Je vous déposerai à l'église la plus proche du domicile du chérubin, et j'irai seul prendre des nouvelles de la sainte créature. Inutile de vous dire que je ne m'attarderai pas dans ce lieu charmant. De toute manière, vous me reverrez. De toute manière, vous me verrez reparaître bientôt, et si votre présence est indispensable, vous le saurez par moi d'une manière certaine. » La proposition avait quelque chose d'exorbitant. Clotilde hésita une minute, rien qu'une minute, juste ce qu'il fallait pour que sa volonté, déjà si parfaitement acquise à cet homme, s'inclina, et cette minute décida de leur destin.